Eh bien, moi, je suis reconnaissant pour toutes les personnes qui étaient sur cette courte vidéo parce qu'elles représentent toute la famille Nouvelle Vie, l'équipe, le staff qui me manque tellement, qui sont tellement précieux. Plusieurs des personnes des coms aussi qui étaient là sur cette petite vidéo que j'aime. Je les aime tellement, je les apprécie tellement. Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous, encore une fois, seul dans la grande salle de 1500 places de Nouvelle Vie avec juste quelques personnes dans cette grande salle pour m'aider au niveau technique. On s'est inspiré de plusieurs vox pop. Vous avez remarqué qu'il y a maintenant plusieurs vox pop du genre « Pourquoi allez-vous être le plus reconnaissant après la COVID » ou « Qu'est-ce que vous n'allez plus jamais prendre pour acquis ?» Après la crise, après la pandémie, les gens, bien sûr, répondent, moi, ce pour lequel je vais être le plus reconnaissant après, c'est les contacts humains, bien sûr, de pouvoir serrer les gens que j'aime dans mes bras, ma liberté. Je regardais différents vox pop, les terrasses, être assis avec des amis au printemps au Québec, les terrasses, les soupers entre amis, les voyages, les sports. Il y a plusieurs personnes qui ont dit, je regardais un vox pop, les sports à la télévision. On s'ennuie de regarder les séries de hockey, le baseball, le football, le basket, les séries à la télévision, nos sports à nous. Les gens s'ennuient de leur sport préféré, de pouvoir pratiquer leur sport préféré. Moi, je suis un très mauvais golfeur et le golf, j'ai une relation depuis toutes les années, relation amour-haine avec le golf. Le golf est un sport cruel. Tu fais un bon coup, tu dis « maintenant je l'ai, je sais comment jouer » et après ça, tu fais des choses horribles. Alors moi, j'ai fait le serment parce que le golf m'a beaucoup fait souffrir dans ma vie, m'a beaucoup fait souffrir et j'ai fait le serment solennel que je ne serai plus jamais frustré sur un terrain de golf. La prochaine fois que je vais aller sur un terrain de golf, je vais juste être tellement reconnaissant d'être là. Il y a quelqu'un qui a répondu, j'ai tellement hâte, je vais être tellement reconnaissant pour la fin de la saison de District 31. Il y a des gens qui ont répondu, bien sûr, leur coiffeur, toutes sortes de être avec des gens qu'on aime était la réponse la numéro un. Nous, on a une petite fille que nous sommes des parents de répit pour elle, des grands-parents de répit pour elle. Depuis qu'elle a 3 mois pour la voir régulièrement. Elle nous a appelé cette semaine, on faisait un FaceTime, elle disait « Est-ce que vous allez m'oublier, mamie Chantal? Est-ce que tu vas m'oublier? » Alors, tu sais, tous ces moments, il y avait une variante dans les questions aussi, dans les vox pop. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Bien, moi, c'est vous qui me manquez le plus, les gens de Nouvelle Vie. C'est d'être avec vous, c'est d'être avec l'équipe la semaine à servir ensemble, c'est d'être dans la maison de Dieu, pas dans une salle vide, mais d'être avec vous, de louer ensemble, de prier ensemble, ça me manque terriblement. Cette semaine, j'ai regardé notre propre réunion mi-semaine avec la louange qui était là et j'étais frappé, j'ai dit à mon épouse, je m'ennuie de chanter avec le peuple de Dieu, je m'ennuie de louer avec le peuple de Dieu, de vivre ce moment-là ensemble. Et croyez-moi, ça va être extraordinaire lorsqu'on va se retrouver de l'autre côté de la pandémie. Et je crois que ça va être des dimanches absolument extraordinaires parce qu'il va y avoir eu des centaines d'entre vous qui allaient se joindre à nous pendant, qui avaient été connectés avec Nouvelle Vie chez vous. Et je suis reconnaissant à l'avance pour ces moments que nous allons vivre ensemble. Et ce matin, le titre du message, c'est la révélation de la reconnaissance face à la COVID-19. La révélation de la reconnaissance, de la gratitude face à la COVID-19. Et nous allons regarder ensemble à cet élément de reconnaissance, d'avoir un cœur de gratitude, non seulement pour ce qui va arriver après la COVID-19, après la pandémie, mais aujourd'hui, alors que nous la traversons pendant la COVID-19. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 18, dit ceci. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que la Bible n'est pas passée date. La Bible n'est simplement pas assez lue. Elle n'est pas passée date, elle n'est pas assez lue. Et c'est fascinant et toujours réjouissant de voir le monde moderne, la science moderne, la médecine moderne, en arriver à des conclusions que la parole de Dieu enseignait il y a 2000 ans et 3000 ans. Par exemple, cette semaine, j'ai pris connaissance d'une étude qui a paru dans le New England Journal of Medicine. C'est une publication très sérieuse et c'est un document étoffé, mais c'est un document du docteur, c'est une étude du docteur Jeremy Dean, c'est un psychologue, qui parle des bénéfices de la gratitude, d'être simplement avoir une attitude de reconnaissance. C'est même, dans l'article, il parle même de la reconnaissance comme de l'émotion miracle, comme l'émotion miracle. Il y a tellement de bénéfices, ils ont fait des études, et chacun des points que je vous mentionne en rafale, il y avait tout un data qui allait avec, des statistiques, mais l'étude, simplement que les gens reconnaissants sont simplement plus heureux. Ils ont une meilleure disposition et humeur générale. Ils sont plus satisfaits. Sont plus aptes à être satisfaits de ce qu'ils ont plutôt que reconnaître ce qu'ils ont plutôt que ce qu'ils n'ont pas encore ou ce qu'ils auraient pu penser avoir perdu. La reconnaissance motive les autres. C'est fascinant, il y a tout un chapitre sur à quel point il disait même qu'un merci en condition, en dynamique de staff ou de travail, un merci de la reconnaissance va être plus efficace que des demandes. Que les personnes reconnaissantes, que la reconnaissance réduit la surconsommation et le matérialisme et les pressions et conflits reliés à l'endettement et les soucis financiers. Lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as, la gratitude pour ce que tu as, la reconnaissance augmente, selon cette étude, la maîtrise de soi et aide les gens à prendre des meilleures décisions. Dans l'ingratitude, dans la non-reconnaissance, il y a l'envie, il y a la jalousie, il y a l'insécurité, la frustration, l'impulsivité. Tu prends des meilleures décisions lorsque tu as un cœur qui reconnaît ce que tu as. C'est intéressant que la reconnaissance contribue à l'équilibre et à la valorisation de nos enfants. J'ai entendu cette phrase cette semaine qui m'a marqué. « Si un enfant ne connaît pas sa valeur, il ne reconnaîtra pas la valeur des autres et ne respectera aucune valeur. » Alors, lorsque nous affirmons nos enfants, lorsque nous sommes reconnaissants envers eux, lorsque nous les aidons à reconnaître tout le potentiel qui est en eux, nous sommes en train de bâtir quelque chose de spécial en eux. Que la reconnaissance améliore les activités de collaboration ou de travail. C'est la marque des dynamiques relationnelles épanouies à long terme. En d'autres mots, en mariage, en amitié, en équipe de leadership, les personnes qui savent comment être reconnaissants, exprimer la gratitude, bâtissent des relations à long terme. Il y a des bénéfices de santé mentale, physique, émotionnelle, réduit le niveau de stress et d'anxiété, est une qualité, selon l'étude, une qualité distinctive des personnes qui sont résilientes. Et ça, ce n'était pas une étude qui est reliée à la COVID, mais l'étude dit littéralement, et je cite, « Qualité distinctive des personnes résilientes face à l'épreuve, la souffrance, l'attente, les tragédies ou événements inattendus. Que les personnes qui réussissent à cultiver, à rendre grâce en toutes choses. » Et là, il y a l'évidente question, rendre grâce, être reconnaissant. En ce moment, pendant la COVID, es-tu sérieux? Pendant la COVID-19, où on est dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a des gens qui perdent la vie, où on a des gens qui sont en CHSLD, qu'on ne peut pas aller visiter, où il y a tellement de souffrances, où il y a des pertes financières, des pertes économiques, des pertes de liberté, où il y a une insécurité de tous les côtés. J'aimerais que vous compreniez, on va regarder ensemble à trois éléments. Le premier, c'est la compréhension de c'est quoi la reconnaissance biblique. La reconnaissance biblique, ce n'est pas une déconnexion. Être reconnaissant à travers la COVID, t'es déconnecté maintenant. C'est pas une déconnexion, c'est une découverte. La compréhension de la reconnaissance, on va retourner à notre texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, qui disait « En toute chose, rendez grâce ». Mais regardez bien maintenant à l'ensemble du verset, au contexte entier. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 19. « Gardez votre joie. N'arrêtez surtout pas de prier. Rendez grâce en toute chose, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les promesses. Alors que vous examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. La clé de la compréhension de la reconnaissance ou d'un esprit de gratitude selon l'enseignement biblique, le cœur, la clé de l'enseignement de reconnaissance dans nos épreuves à travers la COVID, c'est rendez grâce en toutes choses. c'est pas de rendre grâce pour toute chose. Nous ne rendons pas grâce pour la maladie, pour la mort, pour un virus qui détruit tant de choses. Nous rendons grâce à travers la situation, à travers ce que nous traversons. Selon l'enseignement de Paul, la gratitude et l'ingratitude sont des déterminants spirituels et relationnels. C'est, en d'autres mots, votre attitude de gratitude va déterminer l'altitude que vous allez avoir pendant. Quelle va être l'altitude que vous allez prendre pendant cette pandémie? La gratitude ou l'ingratitude et sont des déterminants spirituels et relationnels. Regardez tout ce que ça affecte selon Paul. Tout ce qui est relié à notre attitude de gratitude. Notre vie de prière, n'arrêtez, soyez toujours reconnaissants. N'arrêtez surtout pas de prier. Il y a quelque chose d'absolument essentiel là-dedans, c'est que lorsque nous, si nous, la personne qui a perdu sa gratitude perd sa capacité de lever sa voix, de son cœur vers Dieu, son souffle vers Dieu, notre capacité de trouver la joie face aux choses incontrôlables est affectée par la gratitude ou l'ingratitude. Gardez, protégez votre joie. Un exercice spirituel pour vous cette semaine, à tous les jours, prenez quelques minutes pour dire pourquoi suis-je reconnaissant. C'est quoi les choses pour lesquelles je peux vraiment dire à travers la COVID que je suis reconnaissant? C'est un booster, un développeur de joie. La gratitude est un déterminant spirituel, affecte notre capacité à accomplir la volonté de Dieu. Rendez toujours grâce, car c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas de réussite sans résilience. Et il n'y a pas de résilience sans reconnaissance. Si tu veux accomplir la volonté de Dieu dans ta vie à long terme, tu dois développer cette résilience qui est ancrée, enracinée dans un cœur reconnaissant qu'à travers tout ce que tu fais, tout ce qui manque, tout ce qui n'est pas, tout ce qui fait mal, tu as un cœur qui reconnaît les belles choses, les bonnes choses, la gratitude. Notre communion et même la mesure de l'esprit dans notre vie, n'éteignez pas l'esprit, soyez remplis d'un esprit d'action de grâce. L'ingratitude éteint. Efface graduellement l'empreinte de l'esprit sur quelqu'un. J'ai vu des gens avec une onction extraordinaire dans une saison de leur vie et qui ont laissé l'ingratitude, le cœur qui devient jaloux, le cœur qui devient blessé, qui est ingrat envers tout ce que Dieu a donné, éteindre la marque de l'esprit sur leur vie. Notre foi dans les promesses de Dieu est reliée à notre capacité à marcher dans la gratitude. Ayez un cœur rempli d'action de grâce, n'éteignez pas l'esprit. Même notre paix, même notre pureté y est reliée. La suite du verset, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23-24, « Rendez toujours grâce et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Notre paix est affectée par, est-ce que j'ai un cœur de gratitude ou d'ingratitude? Ma paix est affectée, mon être tout entier, esprit, âme et corps. Il y a une attaque qui prend place sur ma pureté. L'ingratitude envers Dieu ouvre la porte à toutes sortes de tentations. Passez-y un instant. C'est souvent l'adultère dans un couple qui est marié et qui a une chute dans l'adultère est enraciné à quelque part par le cœur qui a cessé d'avoir de la gratitude pour sa partenaire, d'apprécier, d'aimer, de reconnaître. Dans l'ingratitude, il y a tout un chemin de danger. Affecte notre amoindrie, notre capacité à croire en Dieu. Le texte dit, gardez un cœur d'action de grâce parce qu'il est fidèle. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Et je l'ai vu tellement de fois dans ma vie, la vie d'autres. Lorsque la gratitude diminue, la capacité de croire et de mettre notre confiance en Dieu l'est également. C'est un déterminant spirituel. C'est pour ça que le prophète Isaïe dira ceci. Le prophète Ésaïe dira, Ésaïe chapitre 30, les versets 20 et 21, qu'à travers les saisons de difficultés comme on vit en ce moment, Dieu veut nous apprendre, Dieu veut nous enseigner le cœur qu'on doit avoir. Ésaïe 30, 20 et 21, le Seigneur donnera son pain dans l'angoisse et ses eaux vives dans la détresse. Il t'instruira dans l'épreuve. Tes yeux verront et tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marche-y. dans cette épreuve, dans cette pandémie, le Seigneur veut te donner le pain de sa parole, veut te donner les eaux vives de son esprit et t'enseigner, t'instruire dans le cœur de gratitude, à rendre grâce. Écouter sa voix aujourd'hui, la gratitude n'est pas innée, elle implique que je réponds à l'instruction de Dieu. Et que je suis intentionnel à dire, Seigneur, je veux revenir à un cœur de gratitude. Je comprends la compréhension de la reconnaissance. Je comprends toute la dynamique spirituelle qui est reliée. Paul insiste dans Romains chapitre 1 et le verset 21, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. » Alors, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On ne parle pas ici d'intelligence intellectuelle ou de connaissance, on parle d'une intelligence spirituelle. Attention, le confinement est un accélérant, un révélateur multipliant, un intensifiant de nos dynamiques relationnelles. Et lorsque nous cessons devant Dieu, lorsque nous cessons de lui rendre grâce, Il y a tout un tourment, il y a tout un danger dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos relations. Cette semaine, en ce moment, pendant la COVID, c'est le temps de renouveler, c'est le temps de communiquer votre gratitude envers Dieu et envers les personnes qui sont autour de vous. Le texte de Romains dit « parce qu'ils n'ont pas rendu grâce », il y a un égarement dans les pensées et dans le cœur. L'ingratitude divise. Le manque de reconnaissance divise. La gratitude développe et nous permet de devenir. L'ingratitude réduit, repousse. Les personnes ingrates ne sont pas attirantes. Les personnes qui ne disent pas merci, qui ne sont pas reconnaissants, qui sont toujours sans reconnaissance, ne sont pas attirantes. L'ingratitude réduit et repousse, mais le cœur de gratitude qui rend grâce, reconnaît, il relâche, il répare. L'ingratitude culpabilise toujours les autres. La gratitude construit. Et va consoler, va amener compassion. L'ingratitude va gruge la vie d'un couple, la vie d'une famille, un ministère. L'ingratitude gruge et nous rend aveugles à toutes les bontés de Dieu, bénédictions de Dieu, fidélité de Dieu. La gratitude guérit et nous appelle à apaiser avec amour. Comprenez bien que la reconnaissance, ce n'est pas une question de ce que je possède. C'est une question de perspective. Qu'est-ce que je choisis de regarder? La reconnaissance, ce n'est pas une question de condition, c'est une question de confiance. Est-ce que, à travers cette pandémie, je veux faire confiance à Dieu et garder un cœur reconnaissant? Ce qui amène à une bonne question, c'est la deuxième pensée, c'est la confiance de la reconnaissance. Alors, c'est une bonne question. Pendant cette pandémie, ultimement, là, à qui allez-vous faire confiance? À qui allez-vous vous confier? Que vous allez vous confier réellement dans l'économie? Allez-vous vous confier dans les investissements qui montent et qui descendent? Avec tout le respect pour nos décideurs qui font de leur mieux, mais avec un virus en évolution, on n'a jamais vu un comme celui-là, peut-être une pandémie unique depuis 1917 jusqu'à aujourd'hui dans sa gravité, dans toute son influence et son impact. Est-ce qu'on va se fier aux décideurs? Est-ce qu'on va se fier aux commentateurs, aux blogueurs, aux réseaux sociaux? Est-ce qu'on va se fier aux fake news qui dénoncent les fake news? Est-ce que je vais me fier à ce que moi j'avais préparé, ce que moi j'avais... En quoi est-ce que je vais mettre ma confiance pendant cette pandémie? Est-ce que je peux vous suggérer de mettre votre confiance dans celui qui sait tout, dans celui qui était avant tout? Est-ce que je peux vous suggérer de mettre votre confiance dans celui qui était avant, qui est là et qui sera après, que tous les jours de ta vie sont dans son livre, qui règne sur tous les temps et sur toutes les époques? Est-ce que je peux vous suggérer de mettre votre confiance dans celui qui ne ment jamais, dans celui qui ne veut que ton bien, dans celui qui est fidèle, même lorsque nous ne sommes pas fidèles? Est-ce que je peux te suggérer que la compréhension de la reconnaissance, c'est le comment. Je ne suis pas reconnaissant pour toute chose, mais à travers toute chose. Et la confiance de la reconnaissance, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais lui faire confiance à travers cette saison de pandémie? Je vais lui faire confiance parce que je crois qu'à travers cette saison, Dieu va faire une œuvre en moi, à travers moi. Que toutes choses, pas toutes choses sont bien, Mais toute chose concourt au bien, développe le bien, bâtit le bien dans nos vies. Jacques parlait à des gens qui étaient dans une épreuve, dans une pandémie de souffrance et de douleur, de maladie dans Jacques, de gens qui sont malades, de gens qui souffrent, de gens qui sont dans toutes sortes de douleurs. Il dira ceci dans Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4. « Mes frères, regardez et considérez, c'est une question de perspective, regardez et considérez qu'il y a des sujets de joie dans les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Ça, regarde le verset suivant, « Mais il faut que la patience, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez matures, développés et accomplis, sans faillir en rien. » La confiance et la reconnaissance nous permet de trouver des sujets de joie. On ne se réjouit pas de l'épreuve, mais dans l'épreuve, il y a un pourquoi. Pourquoi est-ce que je pourrais trouver un sujet de joie dans l'épreuve? Parce que Dieu fait une œuvre. L'apôtre Paul n'est pas masochiste, mais il a une mesure différente. Il mesure qu'à travers les circonstances, Dieu veut faire une œuvre. La pandémie va avoir un début et une fin. Ça va être une question de moi, mais il y a une œuvre qui peut me transformer, qui peut me façonner, qui peut m'équiper pour le reste de ma vie si je laisse faire son œuvre en moi à travers ça. Ce n'est pas que Paul n'est pas masochiste, il a une mesure différente. Il ne prône pas d'être content dans l'épreuve, mais d'être confiant dans l'épreuve. Pas de se réjouir de l'épreuve, je me réjouis de la COVID, non, mais d'avoir une révélation dans l'épreuve, que l'épreuve va produire quelque chose en nous. Si je laisse Dieu agir, ne gaspillez jamais une crise. Laissez la crise, laissez celle-ci qui est majeure faire son œuvre en vous. Nous sommes confiants que l'épreuve va produire quelque chose en nous. Après avoir étudié les leaders de toutes les époques, c'est un des champs d'études à laquelle j'ai passé le plus de temps, j'ai le plus de livres dans ma bibliothèque sur le leadership à travers les âges. Il y a une marque de tous les leaders. Ils vont tous vous dire que c'est dans l'épreuve qu'ils ont été façonnés. C'est à travers l'épreuve qu'ils ont appris, qu'ils ont grandi, qu'ils ont été fortifiés afin d'accomplir, afin de devenir matures, développés, accomplis, sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. L'épreuve de notre foi produit la patience. La patience n'est pas passivité, résignation, fatalisme, le déni agressif, passif. Non, non. La patience, c'est la confiance que l'attente va accomplir quelque chose en moi, que Dieu, je collabore avec lui, va faire son œuvre en moi. Il faut que la patience accomplisse une œuvre en nous. La patience, c'est le relâchement, le dépôt à ses pieds de la folie et de l'illusion de mon omnipotence ou de mon omniscience. La patience, c'est de dire, je n'aurai pas la prétention de penser que je connais mieux que Dieu, que j'ai l'omniscience de savoir ce qui serait le mieux pour moi en ce moment, à travers ce que je vis. La patience, c'est une confiance. La patience, elle n'est pas fondée sur rien. Elle est fondée sur la confiance que Dieu a une œuvre pour moi. C'est pour ça que dans tous les psaumes où il y a des tragédies, le psaume 46, quand les nations sont bouleversées, quand les nations sont secouées, arrêtées, et sachez que je suis Dieu. La patience est fondée sur la fidélité, sur le caractère, sur qui Dieu est, afin que vous soyez plus forts, matures, développés et prêts à accomplir. Il faut garder les yeux de notre foi sur la finalité de l'œuvre. Souvent, la Bible parle de l'épreuve comme la fournaise, le feu de la fournaise. Et lorsque nous traversons le feu de la fournaise, nous devons avoir les yeux sur la finalité. Il y a une œuvre qui va s'accomplir en moi. Le témoignage de l'amiral James Stockdale est absolument hallucinant. L'amiral James Stockdale a déjà été candidat à la vice-présidence américaine, mais il est surtout reconnu pour avoir été le prisonnier de guerre durant la guerre du Vietnam, qui a été le plus haut gradé. Il était un amiral, il a été prisonnier de guerre, le plus haut gradé à la prison de Hanoï, qu'on a appelé le Hanoï Hilton, avec dérision parce que c'est un endroit de torture. Il a été prisonnier de guerre au Vietnam pendant 8 ans. Torturé, battu pendant 8 ans. Et il a toujours refusé pendant les 8 ans de participer à tout le côté de la propagande. On mettait des soldats devant les caméras pour qu'ils renient. Et lui, il dit, j'ai refusé de renier ma foi et de renier mon pays. Il s'est même lui-même coupé, s'est défiguré avec une lame de rasoir pour ne pas être mis devant les caméras. Il a été là pendant 8 ans. Et lorsqu'il en est sorti, il est devenu un géant dans le domaine du leadership. Il a écrit le best-seller « Courage dans la fournaise » ou « Courage under fire ». Et il est devenu vraiment un leader, un enseignant hallucinant dans le leadership. Et dans un de mes livres favoris de leadership, « Good to Great », un homme d'affaires de l'Église qui m'avait donné ce livre-là, de Jim Collins, un excellent livre. Et dans ce livre, « Good to Great », il y a une interview avec Stockdale, avec l'admiral Stockdale. Et Jim Collins lui pose la question que nous, on lui poserait 8 ans de torture, etc. « Comment as-tu pu y survivre? » Et lui répond, « Je n'ai jamais perdu la foi dans la fin de l'histoire. » À chaque fois que je vois cette citation-là, je n'ai jamais perdu la foi dans la fin de l'histoire. Je me suis dit, je peux arrêter ce sermon-là. Je vais arrêter là parce que si tu peux juste saisir ça aujourd'hui, je ne perds jamais de vue la fin de l'histoire. Cette pandémie n'est pas la fin de ton histoire, n'est pas la fin de l'histoire de l'Église, n'est pas la fin de... Non, cette pandémie n'est pas la fin de l'histoire. Alors, il y a un paragraphe mot à mot où il dit ceci. Je n'ai jamais douté que je sortirais de cette expérience. Et non seulement que j'en sortirais, mais qu'à la fin de cette expérience, cette expérience deviendrait un tournant, un moment qui définirait le reste de ma vie. Et qu'en perspective, là, quand on lit ça, on frémit. Et qu'en perspective, cette épreuve deviendrait une épreuve que je n'échangerais pas pour rien au monde. Parce que l'épreuve l'a façonné. Dans son livre « Courage Under Fire », il y a cette philosophie qu'on a appelée même le « Stockdale Paradox ». Le paradoxe de Stockdale qui est enseigné partout à travers le monde, la notion que dans tes pires moments, et c'est ce que Paul enseignait, c'est ce que Jacques enseignait, c'est dans tes pires pandémies, dans tes pires moments, si tu laisses Dieu agir, si tu as confiance, il va faire une œuvre en toi qui va te façonner. La pandémie te prépare si tu laisses Dieu faire son œuvre en toi. La deuxième question de Collins était évidente, on l'aurait posée nous aussi. Il demande, dans son livre « Good to Great », Collins demande à Stockdale et les autres, ceux, parce qu'il y a plein de prisonniers qui, il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui ont dépression chronique le reste de leur vie et tout le reste. C'est quoi la différence entre toi? Comment ça se fait que toi, tu as survécu et qu'est-ce qui a manqué aux autres? Et lui, il dit ceci, et je le traduis d'une manière la plus simple possible. Il dit, il cherchait seulement à traverser l'épreuve sans comprendre que l'épreuve pouvait les transformer. Stockdale dit, tout ce qu'il voulait, c'est quand l'épreuve va-t-elle arrêter? Quand la pandémie va-t-elle être finie? Quand est-ce qu'on pourra retourner à normal? J'aimerais te dire que Dieu veut plus pour toi que tu retournes à normal. Dieu a quelque chose de plus que ton normal d'avant si tu le laisses agir à travers cette pandémie. Et Stoddard dit, ils avaient leurs yeux, leur cœur, leurs pensées, leur fixation était sur la délivrance, de being delivered from the prison, la délivrance plutôt que ce que Dieu voulait développer en eux, sur leur frayeur plutôt que sur la fin de l'histoire. À travers cette pandémie, Dieu veut te donner, veut te développer toutes sortes de nouvelles choses dans ta vie. J'aime l'illustration de Lou Alcindor. Lou Alcindor était plus tard appelé à changer son nom à Kareem Abdul-Jabbar. Dans la biographie de son coach lorsqu'il était à UCLA, John Wooden, il y a cette anecdote hallucinante. Kareem Abdul-Jabbar, qui était Lou Alcindor, était un géant de 2,24 m, 7 pieds, 4 pouces. Et en passant, si je vous posais la question, qui est le plus grand marqueur, le numéro un de toute l'histoire de la NBA, c'est pas moi. Mais si vous cherchez qui est le plus grand marqueur de toute l'histoire de la NBA, ce n'est pas LeBron James, ce n'est pas Michael Jordan, c'est Kareem Abdul-Jabbar. Et lorsqu'il était à UCLA, saison 1966-67, alors que son coach était John Wooden, un géant au temple de la renommée, l'équipe de UCLA a une séquence de 10 championnats consécutifs. Lui, il est au cœur de ça. Il arrive à sa dernière saison, il y a 20 ans, et là, c'est la saison qui va l'amener à tous ses grands contrats et tout le reste. Et on est dans les années 60, on est dans les années où il y a tous les problèmes raciaux à l'époque. Et d'une manière hallucinante, avec un préjudice terrible, la NCAA décide pour une année seulement, c'était tellement contesté qu'ils ont arrêté après, mais pour une année seulement, la dernière année de collège de Lou Alcindor, qui est devenu Kareem Abdul-Jabbar, ils ont décidé de mettre une interdiction sur le slam dunk. Il n'y aura plus de slam dunk. Le slam dunk, tous ceux qui, et pardonnez-moi ceux qui ne suivent pas le basketball, mais le slam dunk, c'est le move des moves. Et lui, à 7 pieds 4, à 2 mètres 24, simplement dunkait par-dessus tout le monde. Et c'est comme ça qu'il gagnait tous ses championnats. C'est comme ça qu'il battait tous les records. Et la majorité des dunkers de cette époque étaient des Noirs. Et là, il y avait quelque chose de profondément raciste dans ce règlement-là, de discriminatoire. Et lui, lorsqu'on a banni le dunk, il a dit à son coach, j'abandonne. Wooden le raconte dans sa biographie, c'est fini pour moi, je lâche tout, je veux rien savoir, c'est injuste. Et la carrière entière de celui qui est une légende aurait pu être avortée là. Et Wooden, dans sa biographie, raconte, je lui ai dit, t'as raison, c'est injuste ce qu'ils font, mais il va falloir que tu développes d'autres choses. Il va falloir qu'à travers ça, tu développes d'autres choses. Et c'est là, et là, tous les joueurs de basket connaissent ce move, mais c'est là que Alcindor Dor, Kareem Abdul-Jabbar, il n'a plus le droit de dunker, il a développé le skyhook. Le skyhook, c'est un move que tous les jeunes joueurs de basket connaissent, qui lui a permis le reste de sa carrière de dominer sur les autres. Il a développé le skyhook. Et j'aimerais te dire que toi, à travers ton épreuve, à travers ce que tu vis, à travers ce que nous traversons en ce moment, Dieu, pardonnez-moi l'anglicisme, Dieu veut te développer de nouveaux moves. Dieu veut te développer, peut-être dans la façon dont tu fais ton entreprise, tes études, ta carrière, tes plans, tes relations, comment tu deals avec les gens, relations avec Dieu, tes amitiés, tes priorités, tes poursuites en termes christocentriques, parce qu'en ce moment, tu as fait une analogie de basketball, c'est pas très spirituel, je vais vous ramener à Jean chapitre 21. Comme nous, on est quelques semaines après Pâques, comme nous, les disciples savent que Jésus est ressuscité, et la majorité d'entre nous qui regardons ce podcast en ce moment, ce Nouvelle Vie chez vous, nous croyons que Jésus est ressuscité, mais on ne sait pas quoi faire face à cette pandémie. On ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment se comporter. Alors Pierre veut désespérément juste revenir à comment les choses étaient avant. Je retourne pêcher, Jean chapitre 21 et le verset 3. Et les autres lui disent, on va y aller avec toi. Attention à ton influence pendant cette pandémie. Attention à ce que tu communiques. Attention, des gens te regardent, des gens vont te suivre, tes enfants, ta famille, tes amis, des gens autour de toi. Qu'est-ce que tu vas, à tous les jours, je prie, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je vais communiquer pendant cette pandémie? Alors Pierre dit, non, moi, je crois que Jésus est ressuscité, chapitre 20, la résurrection est prouvée de toutes les façons. Je crois que Jésus est ressuscité, mais je ne sais pas quoi faire. Il n'y a plus rien qui est comme avant, il n'y a plus rien que je connais, il n'y a plus rien qui est commun à je vais retourner à ce que je sais faire. Je veux juste que ça revienne comme avant. Je vais aller pêcher. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Si on regarde la suite. Et Jésus leur dit, après une nuit complète de pêche avec rien, jetez vos filets de l'autre côté. Et lorsqu'ils jettent leurs filets de l'autre côté, un nouveau move. Lorsqu'ils jettent leurs filets de l'autre côté, il y a une abondance, il y a un fruit, il y a une pêche miraculeuse sans précédent. Ils disent, oh, c'est le Seigneur. Là, je reconnais que Dieu est avec moi dans ce que nous traversons. Je voudrais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, qui voudrait juste continuer, je voudrais juste retourner à ce que je faisais avant. Je voudrais juste que tout revienne comme... Je voudrais juste... Lance ton filet de l'autre côté. Laisse Dieu t'apprendre les choses nouvelles qu'il a préparées pour toi. Aie confiance. La reconnaissance, la révélation de la reconnaissance, c'est le comment. Hein? Comment être reconnaissant? Pas pour toute chose, mais à travers toute chose. Pourquoi être reconnaissant? Parce que j'ai confiance que l'écoute aujourd'hui est plus productive que tous mes efforts pour perpétuer hier. La pêche, ce qu'il avait toujours fait, tout ce qu'il connaissait était maintenant devenu quelque chose que Dieu dit, je veux t'amener à un autre côté. Lance ton filet de l'autre côté. La confiance de la reconnaissance. La compréhension comment? Pas, rends des grâces, pas pour toute chose, à travers toute chose. La confiance de la reconnaissance, le pourquoi? Pourquoi rendre grâce? Parce que j'ai confiance qu'il va me rendre meilleur, qu'il va m'apprendre, qu'il va me développer, que l'œuvre de la patience doit se faire, qu'il va produire la persévérance. On arrive à la fin du message avec ce que j'appelle le choix de la reconnaissance. Le quand. Pas seulement le comment et le pourquoi, le quand de la reconnaissance. Quand être reconnaissant, pas seulement après la COVID, lorsqu'on va être sur la terrasse, puis qu'on va pouvoir jouer au golf, puis qu'on va pouvoir voyager, puis faire... Non, aujourd'hui, je vais être reconnaissant. Je vais faire le choix de la reconnaissance. Je vais suivre Jésus. Je vais suivre Jésus dans son moment, de plus grande panique, dans son moment de plus grande terreur, dans son moment de plus grande souffrance, dans le chaos qui précédait la croix et la crucifixion, mais qui précédait aussi la plus grande de toutes les conquêtes. Jésus prit une coupe et après avoir rendu grâce, était reconnaissant, remercié, reconnaissant envers Dieu. Et rendre grâce, c'est Eucharistos. Envoyez-moi pas de courriel, Eucharistie, Eucharistos, la transsubstantiation. Je ne parle pas de transsubstantiation, puis je ne vous parle pas non plus de tradition. Parce qu'on peut avoir la tradition évangélique, et depuis des années, tu peux être quelqu'un qui prend la communion régulièrement avec un cœur qui est complètement sans reconnaissance, sans gratitude, avec un cœur ingrat. Non, je parle du choix de la reconnaissance, du choix de rendre grâce, du choix du Eucharistos. Tellement, tellement important. Que non seulement Jésus l'a modelé, mais lorsque Paul enseigne, lorsqu'on voit l'Église des Actes des Apôtres, l'Église du Christ ressuscité, il persévérait chaque jour dans la fraction du pain. Il persévérait chaque jour. Et Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est le Seigneur Jésus qui me l'a communiqué. C'est voici maintenant le chemin dans lequel nous marchons. C'est que le Seigneur Jésus a pris du pain et il a Eucharistos. Il a rendu grâce. Il a Eucharistos. C'est un choix de vie chaque jour. Et sache, 2 Timothée 3:1, que dans les derniers jours, dans les temps de la fin, dans les derniers jours des derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les temps de la fin et nous sommes dans des temps qui sont difficiles. Et les hommes seront acharistos, seront ingrats. Et c'est le choix à chaque jour de nos vies. Est-ce que je vais rendre grâce à Dieu et pour les personnes autour de moi? Comment ai-je été depuis le début de cette pandémie? Est-ce que j'ai exprimé ma gratitude? Est-ce que j'ai communiqué la gratitude et à Dieu et aux personnes autour de moi? Est-ce que je me laisse aller à la frustration, à la colère, à pourquoi tu permets ça? Est-ce que je suis prêt à revenir aujourd'hui et à dire, Seigneur, je ne serai pas de ce peuple d'acharistos, d'ingratitude. Je ne serai pas de ceux qui, mes yeux sont fixés juste sur qu'est-ce que j'ai pas ou qu'est-ce que l'homme le plus riche de son époque, le Bill Gates, le George Soros de son époque, le multimilliardaire de l'époque, Salomon a écrit ceci dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 6, verset 9. « Ce que mes yeux voient maintenant est tellement meilleur que l'agitation des désirs qui sont totalement vains, comme la poursuite du vent. Il avait tout. » Il était totalement insatisfait. Laisse-moi vous dire que le cœur de reconnaissance, ce n'est pas une question de condition de ce que je possède, c'est une question de perspective et c'est une question de cœur, une question de confiance en Dieu. Et aujourd'hui, je veux prier à travers cette pandémie, Seigneur, je ne veux pas être dans l'agitation, le tourment, des choses que je pense avoir perdues, que j'aimerais, que je n'ai pas, des choses que je n'ai pas. Non, je veux m'arrêter aujourd'hui, que mes yeux voient aujourd'hui ce que tu m'as donné, ta bonté, ta fidélité, ta grâce, les personnes qui sont autour de moi. L'apôtre Paul, dans Romains 1, 18, disait, « Je choisis d'être reconnaissant. Je rends d'abord, avant toute chose, grâce à mon Dieu, mais aussi je rends grâce pour vous tous. » Cette semaine, aujourd'hui, à travers cette pandémie, voici le choix que je veux faire. Je veux être quelqu'un qui, si je peux prendre une expression biblique, qui revient sur ses pas pour me prosterner devant le Seigneur, pour me prosterner devant Dieu et dire, Seigneur, pardonne-moi mon ingratitude, je vais être reconnaissant devant toi et je vais être reconnaissant pour vous tous, pour les personnes autour de moi, les personnes qui m'aiment, que j'aime, pour ta bonté, pour ta fidélité dans ma vie. Le dernier verset, avant qu'on aille, on va prendre un moment de reconnaissance, un moment de louange, un moment d'adoration. Nous allons chanter ensemble ce chant magnifique, ce nom si merveilleux. Et là où vous êtes, où vous écoutez ce message, regardez, visionnez ce message, je veux que vous preniez un temps pour simplement dire, Seigneur, je reviens à toi. Seigneur, je reviens sur mes pas. Dans Luc chapitre 17, il y a 10 hommes parmi tous les miracles que Jésus a fait. Il y a 10 hommes qui ont reçu un miracle de guérison hallucinant. La grâce de Dieu a été répandue sur eux, ils ont été bénis, comblés, leur vie a été changée par l'amour et la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit que ces 10 hommes ont reçu le miracle de tous les miracles, leur vie est changée et qu'un seul est revenu pour lui rendre grâce. Alors moi, à chaque fois que je vois ce texte-là dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, que je le médite, je me dis, où sont les 9 autres? Et en passant, ce n'est pas à l'écran, mais en passant, Jésus a posé la même question. Mais où sont les autres? 10 ont été guéris. Un seulement est revenu pour me rendre grâce, pour être reconnaissant. Qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Leur vie a été transformée. Je veux parler à tous les croyants qui regardent ce podcast aujourd'hui, qui regardent Nouvelle Vie chez vous, la parole de Dieu. Je prie qu'à travers l'écran, elle puisse vous percuter là où vous êtes, avec cette sobre réalisation de dire, Seigneur, Je suis cet homme, je suis cette femme qui a été comblée par ton amour, par ta grâce, par ta fidélité. Laisse-moi vous dire qu'aujourd'hui, en 2020, alors que nous vivons la pandémie, si vous avez un toit au-dessus de votre tête, si vous avez de l'eau courante dans votre maison, si vous avez des vêtements, si vous avez de la nourriture, si vous avez, il y a mille choses dans nos vies qui font en sorte qu'on devrait s'arrêter et dire, Seigneur, je suis juste reconnaissant. À tous les jours, parce que vous savez qu'à tous les jours, nous prenons 23 000 respirations par jour. Vous êtes-vous arrêté aujourd'hui simplement pour dire, 23 000. Seigneur, je veux te remercier pour le souffle qui est en moi encore, pour la vie que tu m'as donnée, pour l'œuvre que tu fais en moi, pas pour toute chose, en toute chose, avec confiance envers toi. 10 hommes qui ont été guéris, des milliers en ce moment qui regardent ce message, qui ont été guéris, qui ont été touchés par Dieu, qui ont été aimés par lui, votre vie a été entièrement transformée. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les 9 autres, a dit Jésus? Peut-être qu'ils vivaient une pandémie, peut-être qu'ils étaient confinés, peut-être qu'ils ne pouvaient pas aller au resto, peut-être qu'ils ne pouvaient pas jouer au golf, peut-être que leur économie avait baissé. Puis là, je ne fais pas minimiser des choses graves et réelles qui prennent place pendant cette pandémie. Mais un seul, la Bible nous dit, est revenu, revient. Si on est capable de remettre le verset, et un seul est revenu sur ses pas pour glorifier à haute voix. Il est tombé sur sa face aux pieds de Jésus, puis s'est mis à lui dire, « Merci Seigneur, je te rends grâce. » Et aujourd'hui, j'aimerais t'appeler, vous appeler, et je réponds à l'appel moi-même, à revenir et revenir sur mes pas. Si j'étais sur un chemin d'ingratitude, de frustration, de « Seigneur, je veux revenir sur mes pas et je veux me prosterner devant toi et te dire merci, te dire je te fais confiance, je comprends aujourd'hui que la révélation de la reconnaissance, ce n'est pas que je vais te remercier pour tout ce qui arrive, mais à travers tout ce qui prend place et j'ai confiance. » Ça, c'est le pourquoi je vais te rendre grâce, même dans une pandémie, parce que je sais, j'ai confiance que tu fais une œuvre, que l'œuvre de la patience va se faire en moi, qu'il y a un développement en moi qui va prendre place et que toutes ces choses vont concourir au bien parce que je t'aime puis je suis appelé selon tes desseins et je réponds au quand. Le choix, c'est aujourd'hui, c'est pas seulement après la pandémie, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je veux rejoindre cet homme, je veux revenir sur mes pas, à tes pieds, devant toi, et je veux t'adorer, je veux te remercier, je veux te confier ma vie, je veux te faire confiance et je veux te dire merci. Et cette semaine et jusqu'à la fin de cette pandémie et de l'autre côté, je vais exprimer, communiquer, dire ma gratitude aux gens autour de moi. Je vais cultiver, communiquer et me consacrer à une vie de gratitude devant toi. Seigneur, nous nous offrons à toi. Nous rejoignons cet homme à tes pieds pour te louer, pour t'adorer, pour te dire merci. Je te demande pardon. Avec repentance, nous venons à toi pour notre ingratitude. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Nous voulons revenir à un cœur de gratitude pour les personnes autour de nous, pour toutes tes bontés dans nos vies, pour ta fidélité, pour ton abondance, pour ta grâce, pour la vie, pour le souffle que tu nous as donné. Et avec confiance, nous sommes reconnaissants pour l'œuvre que tu as commencé en nous, que tu vas accomplir en nous. Nous allons développer des choses nouvelles à travers cette pandémie. Seigneur, nous avons les yeux, non pas sur la fournaise et le feu que nous vivons actuellement, mais nos yeux sont sur la fin, sont sur la finalité de ce que tu vas accomplir en nous, sur la foi dans nos vies que tu vas développer, que tu vas faire grandir pour les œuvres à laquelle tu nous appelles. Et le camp est maintenant. Aujourd'hui, nous voulons honorer ton nom, ta fidélité, ton nom si merveilleux, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Joignez maintenant l'équipe d'adoration de Nouvelle Vie. Et là où vous êtes, célébrez, honorez, rendez grâce avec nous pour son nom si merveilleux.